Cuenta Silmarillion. L'histoire des Silmarils. Chapitre 1. Du commencement des jours. On raconte parmi les sages que la première guerre commença avant le plein façonnement d'Arda, et dès avant que la terre ne vit les premières pousses ou les premiers pas sur son sol. Et pendant longtemps, Melkor eut le dessus. Mais au beau milieu de cette guerre, un esprit fort et intrépide se porta au secours des Valar, ayant perçu depuis le lointain firmament qu'une bataille se jouait dans le petit royaume. Et Arda retentit de l'écho de son rire. Ainsi vint Toulkas le fort, dont la colère s'abat comme une puissante rafale, chassant la nuée et les ténèbres devant elle. Et Melkor fuit devant son courroux et son rire, et quitta Arda. Et elle connut la paix durant un long âge. Et Toulkas s'y établit et devint l'un des Valar du royaume d'Arda. Mais Melkor cependant ruminait dans les ténèbres extérieures, et il voit dès lors à Toulkas une haine éternelle. En ce temps-là, les Valar ordonnèrent terre, montagne et océan, et Yavanna sema enfin les graines qu'elle avait mis longtemps à concevoir. Et puisque, une fois les feux éteints ou enfouis sous les collines primordiales, il y eut besoin de lumière, Aulë, sur la prière de Yavanna, façonna deux lampes colossales pour éclairer la terre du milieu qu'il avait levée du sein des mers encerclantes. Lors, Varda emplit les lampes et Manwë les bénit, et les Valar les posèrent sur deux grands piliers, plus hauts et altiers qu'aucun pic depuis lors. L'une des lampes se dressait dans le nord de la terre du milieu et s'appelait Ilúin, et l'autre fut érigée au sud et avait nom Ormal. Et dès lors la lumière des lampes des Valar s'épandit sur la terre entière, et tout fut illuminé comme sous un jour invariable. Lors les graines que Yavanna avait plantées se mirent soudain à germer et à bourgeonner, et il apparut une multitude de végétaux grands et petits. Mousses, herbes et larges fougères, arbres couronnés de nuages comme de vivantes montagnes, mais dont les pieds étaient baignés d'une pénombre verte. Et des bêtes virent le jour, tantôt peuplant les plaines herbeuses, les rivières et les lacs, tantôt marchant dans l'ombre des bois. Nulle fleur n'avait encore éclos, et aucun oiseau ne chantait, car ces choses patientaient encore dans le sein de Yavanna. Mais son invention était foisonnante, et nulle part plus riche qu'au mi-temps de la terre, où la lumière des deux lampes se rencontrait et s'entremêlait. Et là, sur l'île d'Almaren, sur le grand lac, les Valar firent leur première demeure au temps où toute chose était jeune et où le ver nouveau était encore merveille aux yeux des créateurs. Et ils furent longtemps satisfaits. Or, il arriva qu'au moment où les Valar se reposaient de leur labeur, observant la croissance et le développement de ce qu'ils avaient conçu et entrepris, Manwë décréta une grande fête. Aussi les Valar et toute leur suite vinrent à sa demande. Mais Aulë et Toulkas étaient là, car le savoir-faire d'Aulë et la force de Toulkas avaient été mis au service de tous, sans discontinuer, durant tous leurs travaux. Et Melkor savait tout ce qui était fait, car même alors il disposait d'espions et d'alliés secrets parmi les Maillards qu'il avait convertis à sa cause. Et, loin dans les ténèbres, il était submergé de haine, jaloux de l'œuvre de ses pères, qu'il désirait s'assujettir. Ainsi il fit venir à lui d'au-delà des Halles d'Ea des esprits tombés sous sa servitude, et il se crut assez fort. Et voyant son heure arriver, il s'approcha de nouveau d'Arda et la contempla d'en haut, et la haine le submergea d'autant plus lorsqu'il vit la beauté de la terre en son printemps. Or donc les Valar étaient réunis sur Almaren, ne craignant aucun mal, et l'éclat d'Ilúin les empêcha de voir au nord l'ombre jetée de loin par Melkor, car il avait pris la noirceur de la nuit du vide. Et l'on chante que, lors de cette fête du printemps d'Arda, Toulkas épousa Nessa, la sœur d'Oromë, et elle dansa devant les Valar sur l'herbe verte d'Almaren. Puis Toulkas dormit, plein de lassitude et de satisfaction, et Melkor jugea son heure arrivée. Il passa donc les murailles de la nuit avec sa troupe, et entra en terre du milieu par l'extrême nord. Et les Valar ne l'avisèrent point. Or, Melkor se mit à creuser et à bâtir une grande forteresse dans les profondeurs de la terre, au-dessous de montagnes noires où les rayons d'Iluin étaient pâles et froids. Le nom de cette place forte était Utumno. Et sans que les Valar en sussent encore rien, le maléfice de Melkor et le poison de sa haine se répandirent au dehors, et le printemps d'Arda en fut mari. Arbres et plantes se tavelaient et pourrissaient. Les rivières s'engorgeaient d'algues et de vases, des marécages se formaient, eaux fétides et viciées où les mouches pullulaient, et les forêts devinrent sombres et dangereuses, hantées par la peur, et les bêtes se changèrent en monstres armés de cornes et d'ivoire, couvrant la terre de sang. Dès lors, les Valar surent que Melkor était de nouveau à l'œuvre, et ils cherchèrent à découvrir où il se tairait. Mais Melkor, convaincu de la force d'Utumno, et de celle de ses serviteurs, déclencha soudain la guerre, et il porta le premier coup avant que les Valar fussent prêts. Et il assaillit les lampes d'Iluin et d'Ormal, et renversa leurs piliers, et détruisit leurs globes. La chute de ces immenses colonnes brisa les terres et déchaîna le tumulte des océans. Et lorsque les lampes se renversèrent, un feu destructeur se répandit sur la terre. La forme d'Arda et la symétrie de ses eaux et de ses terres furent alors irrémédiablement maries, et les desseins primitifs des Valar ne devaient jamais être rétablis. À la faveur du désordre et des ténèbres, Melkor s'échappa, mais il fut pris de peur, car au-dessus des mers rugissantes, il entendit la voix de Manwë tel un vent puissant, et la terre tremblait sous les pieds de Toulkas. Mais il gagna Utumno avant que celui-ci le rattrapât, et il s'y terra. Et les Valar ne purent alors le vaincre, car ils mirent presque toute leur force à contenir les tumultes de la terre et à sauver du désastre ce qui, de leur labeur, pouvait être sauvé. Et après, ils craignirent de rompre la terre à nouveau, avant de savoir quelle serait la demeure des enfants d'Ilúvatar encore à naître, dans un avenir qui ne leur avait pas été révélé. Ainsi finit le printemps d'Arda. La demeure des Valar sur Almaren était entièrement détruite, et ils n'avaient aucun lieu d'habitation sur la face de la terre. Ils quittèrent donc la terre du milieu et se rendirent au pays d'Aman, la plus occidentale de toutes les terres, située aux confins du monde, car son littoral ouest regardait sur la mer extérieure, que les elfes nomment Ekaïa, et qui ceinture le royaume d'Arda. Nul ne sait jusqu'où elle s'étend, hormis les Valar. Et au-delà se dressent les murailles de la nuit. Mais les rivages d'Aman, à l'est, marquaient l'ultime frontière de Belégaer, la grande mer de l'ouest. Et comme Melkor s'était de nouveau établi en terre du milieu, d'où il ne pouvait encore le chasser, les Valar fortifièrent leur demeure, et sur les rivages de la mer érigèrent les Pelori, les montagnes d'Aman, les plus élevées de la terre. Et dominant toutes les montagnes des Pelori, était cette éminence au sommet de laquelle Manwë installa son trône. Cette montagne sacrée, les elfes la nomment Tanikwëtil, et Oyolosé, la blancheur éternelle, et Elérina, la couronnée d'étoiles, et maints autres noms. Mais les Sindar, dans la langue qui fut plus tard la leur, l'appellent Amon Wilos. De leur halle sur le Tanikwëtil, Manwë et Varda pouvaient regarder aux confins de la terre jusque dans l'est le plus reculé. Derrière les murs des Pelori, les Valar établirent leur domaine dans cette région que l'on nomme le Valinor. Et là se trouvent leurs demeures, leurs jardins et leurs tours. En ce pays fortifié, les Valar assemblèrent une vaste réserve de lumière, ainsi que toutes les plus belles choses qu'ils avaient sauvées du désastre. Et ils en firent bien d'autres encore plus ravissantes. Et le Valinor devint plus beau encore que la terre du milieu au printemps d'Arda. Et c'était un pays bien heureux, car les immortels y demeuraient. Et là, rien ne se fanait ni ne dépérissait, et aucune souillure ne se voyait sur la fleur ou la feuille, ni corruption ni maladie en aucun être vivant. Car les pierres et les eaux mêmes y étaient bénies. Et lorsque la construction du Valinor fut achevée et leur palais érigé, les Valar, au milieu de la plaine derrière les montagnes, bâtirent leur cité, Valmar, aux mille clochers. Devant sa porte ouest s'élevait un tertre vert, Ezeloar, qui porte aussi le nom de Koroleire. Et Yavanna le bénit, et elle y resta longtemps assise sur l'herbe verte. Et elle entonna un chant de puissance où se déployait toute sa pensée, s'agissant des choses qui poussent dans la terre. Mais Nienna réfléchit en silence et arrosa le terreau de ses pleurs. En cet instant, les Valar s'étaient rassemblés pour entendre le chant de Yavanna, et ils siégeaient en silence au trône du conseil dans le Maanaxar, l'anneau du destin, non loin des portes dorées de Valmar. Et donc Yavanna Kementari chanta devant eux, et ils observèrent. Et tandis qu'ils observaient, jaillirent au sommet du tertre deux fragiles pousses. Un silence recouvrit le monde entier en cet instant, et il n'eut d'autre son que le chant de Yavanna. Et au son de son chant, les sillons crurent en de beaux et grands arbres, et furent bientôt en fleurs. Ainsi vinrent au monde les deux arbres du Valinor. Entre toutes les créations de Yavanna, leur renommée est sans égale, et autour de leur destinée sont tissés tous les contes des jours anciens. L'un avait pour lui des feuilles d'un vert sombre, au revers d'argent scintillant. De son abondante floraison, ruisselait en permanence une rosée de lumière argentée, et l'ombre tachetée de ses feuilles frémissantes jouait sur le sol à ses pieds. L'autre avait quant à elle des feuilles d'un vert tendre, comme le hêtre en frondaison. Leur contour était d'or brillant. Sur ses branches se balançaient des grappes de fleurs au flamboiement jaune, cornes lumineuses qui déversaient une pluie d'or sur le sol. Et de ces inflorescences émanaient une chaleur et une grande lumière. Le premier avait pour nom Telperion en Valinor, ou encore Silpion, Ninquelote et combien d'autres. Mais Laureline était le nom de la seconde, et aussi Malinalda, Coulourien et beaucoup d'autres noms immortalisés dans les champs. En 7 heures, la splendeur de chaque arbre croissait jusqu'à plénitude, puis se réduisait de nouveau à néant. Et chacun revenait à la vie 1 heure avant que l'autre cesse de briller. Ainsi venait 2 fois par jour en Valinor 1 heure paisible de lumière douce, alors que chaque arbre luisait faiblement et que leurs faisceaux d'or et d'argent se mêlaient. Telperion était l'aîné des arbres et fut le premier à venir à pleine stature et à fleurir. Et cette première heure où il brilla, lueur blanche d'une aurore argentée, les Valar ne l'inclurent point dans le compte des heures, mais l'appelèrent l'heure inaugurale. Et ils comptèrent à partir de là les âges de leur règne en Valinor. Ainsi, à la 6e heure du premier jour, et de tous les autres joyeux jours qui suivirent jusqu'à l'assombrissement du Valinor, s'achevait la floraison de Telperion, et à la 12e heure, l'épanouissement de Laureline. Et chaque jour des Valar en Aman comptait 12 heures et se terminait par le second mélange des lumières, alors que Laureline, elle, déclinait et que Telperion s'éveillait. Mais la lumière qui se déversait des arbres subsistait longtemps avant d'être disséminée dans les airs ou absorbée par la terre. Et les rosées de Telperion et la pluie de Laureline Varda les amassait dans de grandes cuves, pareilles à des lacs étincelants, qui étaient pour tout le pays des Valar comme des fontaines d'eau et de lumière. Ainsi commencèrent les jours de la félicité du Valinor, et ainsi commença également le compte du temps. Mais tandis que les âges passaient et que se rapprochait l'heure choisie par Ilúvatar pour la venue des premiers-nés, la terre du milieu était baignée de pénombre sous les étoiles que Varda avait façonnées au temps immémorial de ses travaux en Ea. Dans les ténèbres vivait Melkor, et il allait souvent encore par les terres sous diverses formes puissantes et terribles, maniant le feu et le froid, depuis la cime des montagnes jusqu'aux profondes fournaises qui gisent au-dessous. Et tout ce qui était cruel, violent ou mortel en ce temps-là est mis à son délit. La beauté et la félicité du Valinor étaient telles que les Valar franchissaient rarement les montagnes jusqu'en terre du milieu, mais accordaient au pays situé derrière les Pelori leurs soins et leur amour. Et au cœur du royaume béni se trouvaient les palais d'Aolé, où il mena de longs travaux. Car dans le façonnement de toutes choses en ce pays, Aolé eut la plus grande part, et il entreprit là-bas de nombreux ouvrages, beaux et harmonieux, tantôt ouvertement, tantôt en secret. C'est de lui qu'émanent le savoir et la connaissance de la terre et de tout ce qu'elle contient. Savoir de ceux qui n'ont pas vocation à créer, mais qui aspirent simplement à la compréhension des choses, ou savoir de tout artisan. Le tisserand, le menuisier et l'orfèvre, tout comme le laboureur et le fermier, bien que ces derniers, comme tous ceux qui s'occupent de ce qui pousse et rend des fruits, soient également redevables à l'épouse d'Aolé, Yavana Kementari. C'est bien Aolé que l'on nomme l'ami des Noldor, car ils apprirent beaucoup de lui par la suite, et ce sont les plus doués des elfes. De même qu'à leur façon, grâce aux dons qu'Ilúvatar leur a accordés, ils ajoutèrent beaucoup à son enseignement, se passionnant pour les langues et les écritures, et pour les motifs de broderie, de dessin et de sculpture. Et ce furent aussi les Noldor qui, les premiers, parvinrent à la fabrication des gemmes. Et les plus magnifiques d'entre toutes étaient les Silmaril, qui sont perdus. Mais Manwë Sulimo, le plus saint, le plus éminent des Valar, siégeait sur les confins d'Aman, et sa pensée n'oubliait pas les terres extérieures. Car son trône était dressé en majesté au point culminant du Taniquetil, la plus haute montagne du monde, à la lisière de l'océan. Là-bas, des esprits sous forme de faucons et d'aigles allaient et venaient continuellement, et leurs yeux pouvaient sonder les profondeurs de la mer et percer à jour les cavernes secrètes sous la surface du monde. Ainsi, ils lui rapportaient presque tout ce qui se passait en Arda, mais certaines choses n'en demeuraient pas moins cachées, même au regard de Manwë et de ses serviteurs, car des ombres impénétrables recouvraient les lieux où siégeait Melkor et sa sombre pensée. Manwë n'est point soucieux de son honneur, ni jaloux du pouvoir qui est sien, mais gouverne en tout pour la paix. Les Vanyar étaient de tous les elfes ses favoris, et il leur donna le chant et la poésie, car la poésie fait les délices de Manwë, et le chant des mots est sa musique. Son vêtement est bleu, et bleu est la flamme de ses yeux. Et son sceptre est de saphir, que les Noldor ont conçu pour lui. Et il fut choisi comme le représentant d'Ilúvatar, roi du monde des Valar, des elfes et des hommes, et première défense contre le mal issu de Melkor. Auprès de Manwë restait Varda, à la beauté souveraine, elle qui en langue sindarine se nomme Elbereth, reine des Valar, créatrice des étoiles. Et auprès d'eux, vivait dans la béatitude, une grande cohorte d'esprits. Mais Ulmo était seul. Il ne demeurait pas en Valinor et n'y allait jamais, sauf si un grand conseil s'y réunissait. Dès le commencement d'Arda, il vécut dans l'océan extérieur et y vit toujours. De là, il gouverne le flux de toutes les eaux et leur reflux, le cours de toutes les rivières et le remplissage des sources, l'épanchement des pluies et des rosées en tout lieu qui s'étendent sous le ciel. Dans les profondeurs, il médite une grande et terrible musique, et l'écho de cette musique coule dans toutes les veines du monde, dans la peine et dans la joie. Car si joyeuse est la fontaine qui jaillit au soleil, elle naît dans les puits insondables de la tristesse aux fondations de la terre. Les Teleri apprirent beaucoup d'Ulmo. C'est pourquoi leur musique recèle à la fois la tristesse et l'enchantement. Avec lui, en Arda, vinrent Salmar, qui fabriqua les corps d'Ulmo, que nul ne peut oublier sitôt qu'il les a entendus. De même Kossé et Winen, qu'il mandata pour régir les vagues et les mouvements des mers intérieures, et beaucoup d'autres esprits encore. C'est donc grâce au pouvoir d'Ulmo, si, même sous les ténèbres de Melkor, la vie circulait encore par maints filons secrets, et que la terre ne mourait pas. Et à tous ceux qui se perdaient dans ces ténèbres ou s'éloignaient de la lumière des Valar, l'oreille d'Ulmo resta toujours attentive, et il ne délaissa jamais la terre du milieu. Et à travers toutes les vicissitudes, désastres ou changements qui l'ont touché depuis, il n'a jamais cessé de s'en préoccuper, et ne cessera jamais jusqu'à la fin des jours. Et en cette sombre époque, Yavanna non plus ne voulait abandonner définitivement les terres extérieures, car toutes choses qui poussent lui sont chères, et elle regrettait les travaux qu'elle avait entrepris en terre du milieu et que Melkor avait gâchés. Ainsi, Elle quittait parfois la maison d'Aulé et les prés florissants du Valinor pour se rendre là-bas et amender les blessures de Melkor. Et à son retour, elle ne manquait jamais d'exhorter les Valar à combattre son règne malfaisant, guerre qu'il devrait certainement livrer avant la venue des premiers-nés. Et il arrivait qu'Oromé, le dompteur de bêtes, chevaucha lui aussi dans la nuit des forêts sans lumière. Arc et lance à la main, il venait au royaume de Melkor en fier chasseur, poursuivant à la mort les monstres et les bêtes féroces. Et Nahar, son coursier blanc, jetait des reflets d'argent parmi les ombres. Alors la terre endormie tremblait sous le martèlement de ses sabots d'or, et Oromé, au crépuscule du monde, sonnait de son grand corps, le Valaroma, sur les plaines d'Arda. Sur quoi les montagnes retentissaient, les ombres du mal fuyaient autre part, et Melkor lui-même tressaillait à Utumno, sentant le courroux approcher. Mais sitôt Oromé parti, les serviteurs de Melkor s'ameutaient de nouveau, et les terres étaient enveloppées d'ombre et de faux semblants. Or, tout est dit quant à la forme de la terre et de ses gouverneurs au commencement des jours, et avant que le monde devint tel que les enfants d'Ilúvatar l'ont connu. Car les elfes et les hommes sont les enfants d'Ilúvatar, et comme ils ne comprirent pas entièrement le thème qui fit entrer les enfants dans la musique, aucun des Ainur n'osa ajouter quoi que ce soit à leur confection. C'est pourquoi les Valar, à côté de ces peuples, sont regardés comme leurs aînés ou leurs chefs, plutôt que comme des maîtres. Et si les Ainur, dans leur commerce avec les elfes et les hommes, ont jamais cherché à les contraindre lorsqu'ils refusaient d'être guidés, l'issue en fut rarement heureuse, quelque bonne que fût l'intention. De fait, les Ainur furent surtout en commerce avec les elfes, car Ilúvatar a doué ces derniers d'une nature semblable à la leur, encore que d'une stature et d'un pouvoir moindre. Tandis qu'aux hommes, il accorda d'étranges dons. Car il est dit qu'un silence tomba après le départ des Valar, et qu'un âge durant, Ilúvatar resta seul à méditer. Puis il parla et dit « Voici, j'aime la terre qui sera le séjour des Quendi et des Atani. Mais les Quendi seront les plus belles des créatures terrestres, et ils posséderont, concevront et amèneront plus de beauté que tous mes autres enfants. Et ils connaîtront la plus grande félicité en ce monde. Mais aux Atani, j'accorderai un don nouveau. » Ainsi il voulut que le cœur des hommes soit porté au-delà du monde, et qu'au-dedans, il ne trouva aucun repos. Mais aussi, qu'ils aient la vertu de disposer de leur vie, parmi les puissances et les aléas du monde, par-delà la musique des Ainur, qui scelle le destin de toute autre chose. Et de leur fait, tout serait achevé en substance et en acte, et le monde accompli jusqu'en son dernier et plus infime détail. Mais Ilúvatar savait que les hommes, jetés au cœur des troubles des puissances du monde, se fourvoieraient souvent et n'useraient pas harmonieusement de leurs dons. Et il dit « Eux aussi verront bien un jour que tout ce qu'ils font ne concourt finalement qu'à la gloire de mon œuvre. » Pourtant, à ce qu'en croient les elfes, les hommes sont un chagrin pour Manwë, qui connaît le mieux la pensée d'Ilúvatar. Car aux yeux des elfes, les hommes ressemblent à Melkor plus qu'à aucun autre des Ainur, bien qu'il les ait toujours craints et détestés, même ceux qui le servaient. Il va de pair avec ce don de liberté que les enfants des hommes ne vivent qu'un court intervalle dans le monde et n'y sont pas liés, et bientôt le quittent pour un lieu inconnu des elfes. Alors que les elfes y demeurent jusqu'à la fin des jours, ce pourquoi leur amour de la terre et du monde en son entier est plus poignant et plus singulier, et toujours plus douloureux à mesure que les années s'allongent. Car les elfes ne meurent point que le monde ne meure, à moins d'être tués ou de dépérir de chagrin, et à ces deux morts apparentes ils sont sujets. Pas plus que la vieillesse n'atténue leur vigueur, hormis la lassitude d'une existence 10 000 fois séculaire. Et une fois morts, ils sont rassemblés aux halles de Mandos en Valinor, dont ils peuvent revenir en temps voulu. Mais les fils des hommes meurent réellement et quittent ce monde. C'est pourquoi on les surnomme les invités ou les étrangers. La mort est leur lot, dont dit l'Uvatar qu'au fil du temps même les puissances le renvieront. Mais Melkor a jeté son ombre sur elle, l'assimilant aux ténèbres, et d'un grand bien a fait surgir le mal, et de l'espoir la peur. Pourtant, il y a bien longtemps, en Valinor, les Valar proclamèrent aux elfes que les hommes se joindraient à la seconde musique des Ainur. Tandis qu'Iluvatar n'a pas révélé son dessein à l'égard des elfes après la fin du monde, et Melkor ne l'a pas découvert.